transition où vont être négociés un certain nombre de dossiers. Finalement, vous avez aujourd'hui le choix entre sortir tout de suite sans rien régler ou sortir avec un accord et pendant 2, 3, peut-être plus 4 ans, négocier quelque chose, une relation future, dossier par dossier et sortir progressivement. Hormis ça, il n'y a pas grand-chose à
Mais est-ce que
négocier.
c'est fait suffisamment? Il y a quand même eu chez les gouvernants européens, quand les Britanniques ont mal voté du point de vue européen, cette tentation de faire disparaître le Royaume-Uni, de le punir pour que tout le monde comprenne bien qu'on ne quitte pas l'Europe comme ça. L'Europe négocie avec tout le monde, avec M. Erdogan, avec M. Trump, avec M. Bolsonaro quand il n'est pas en train de se faire couper les cheveux. Pourquoi l'Union européenne est-elle si intransigeante avec ce pays qui était une partie d'elle-même?
Alors, elle n'est pas intransigeante. On est juste sur deux positions qui sont irréconciliables. Et on en revient encore à ce backstop. Ce backstop, ça veut dire que vous avez d'un côté les Brexiteurs et les Britanniques qui sont pour le Brexit, qui veulent qu'une frontière soit restaurée parce que l'Irlande du Nord est britannique. Et de l'autre côté, vous avez des Européens et des Britanniques qui souhaitent que la frontière physique ne revienne pas par crainte de conflit, qui considèrent que finalement l'Irlande du Nord va rester, qu'on le veuille ou non, va rester dans l'Union européenne. Alors, pour partie, mais va rester dans cette Union européenne. On comprend bien que il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de. Il y a frontière ou il n'y a pas frontière.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les Brexiteurs eux-mêmes ne souhaitent pas le retour d'une frontière entre les deux Irlandes. Et justement, dans les propositions de Brexiteurs comme Boris Johnson, il y a la proposition de faire un accord de libre-échange, de type de celui que l'Union européenne fait avec le Canada.
Mais est-ce qu'il y a un projet ou pas? Parce que c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a l'impression que c'est flou.
Je veux dire, c'est ça. Le projet de Boris Johnson, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Royaume-Uni redevenu indépendant.
Exactement. Et donc, en fait, je dirais ce qu'on a depuis toujours, depuis que le Royaume-Uni est entré dans la communauté économique européenne, ce souhait d'une majorité de Britanniques de commercer avec l'Union européenne et l'ensemble du monde, d'ailleurs, hein, une vision très ouverte sur le monde, mais que ce ne soit que des échanges commerciaux et financiers et qu'on n'aille pas vers une intégration politique telle que celle qu'on a à l'intérieur de l'Union européenne.
Je pense qu'on peut quand même se poser des questions sur ce que veut réellement Boris Johnson. Je pense qu'il y a possiblement une stratégie qu'il a en tête, c'est-à-dire d'aller demander aux Européens à Bruxelles ce qu'il sait d'ores et déjà d'avance. Ils ne seront pas capables de lui donner. De revenir à Londres, de dire, bon, les gars, l'Europe nous méprise, l'Europe nous humilie, on va sortir sans accord. Le Parlement britannique, qui avait déjà voté 3 fois contre une sortie sans accord, va dire, bah non, désolé, on ne sort pas sans accord. Et Boris Johnson, ce qu'il faut se rappeler avec Boris Johnson, c'est ce qui l'intéresse surtout, c'est sa propre ambition, c'est sa carrière politique. Lui, il veut rester aussi longtemps que possible à 10 Downing Street. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de nouvelles élections. Il veut pouvoir se présenter, se profiler comme le sauveteur du Brexit, le seul homme politique britannique qui comprend et qui est prêt à mettre en œuvre la volonté du peuple. Il veut déclencher les élections.
Certaines choses,
en tout cas, il fait rêver, et si on croit John Hannay, il est déjà en campagne, Boris Johnson.
Complètement.
Écoutez-le, c'était cette semaine, promettre du pain, des roses et des rêves à ses compatriotes en cas de Brexit.
Quitter l'Union européenne est une énorme opportunité économique pour faire des choses que nous n'avons jamais été autorisés à faire pendant des décennies. Pour nous débarrasser de la paperasse bureaucratique, pour créer des emplois, pour démêler la créativité et l'innovation qui font la réputation du Royaume-Uni.
Catherine Mathieu, parole de l'économiste, et on ne sourit pas, même si Boris Johnson prête à sourire. Est-ce qu'il y a un chemin de prospérité pour un Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne, ou est-ce que la catastrophe est au coin de la rue, forcément? Je parle d'un Brexit dur.
Oui. On peut dire, je pense, que probablement à court terme, un Brexit dur aurait un effet négatif sur l'économie britannique. À plus long terme, c'est plus difficile de vous répondre. Parce que si le choix, à ce moment-là, a été fait par le Royaume-Uni d'aller vers une économie très libérale, encore plus libérale que celle du Royaume-Uni aujourd'hui, on pourrait dire qu'à terme, en termes de croissance, il n'y aurait pas nécessairement un effet négatif pour l'économie britannique, mais très probablement une économie britannique avec davantage d'inégalités, davantage de pauvreté et de très riches. Un autre modèle, un modèle beaucoup plus libéral. libéral que le modèle aujourd'hui.
Qui a existé dans l'histoire, qui a existé dans l'histoire de ce pays, c'est Lumatelli, c'est sous Dickens,
oui, c'est
comme ça.
C'est le modèle du 19e siècle, en fait, c'est l'économie du 19e siècle. Et là où Boris Johnson.
Antérieur à
l'État providence. Et là où Boris Johnson a raison, c'est que l'Europe a protégé ses consommateurs, a protégé ses citoyens par un certain nombre de mesures. On est en avance, on est en pointe sur la lutte contre le changement climatique, on est en pointe sur un certain nombre de dossiers. Le principe de précaution, c'est quelque chose qui est assez original dans l'Union européenne, mais c'est quelque chose qui empêche le business, qui empêche les affaires. Et si vous créez à proximité de l'Union européenne un territoire où tout est possible, nul doute que les investisseurs se précipiteront pour en profiter.
Il est assez intéressant, assez révélateur d'ailleurs, que le premier conseil du tout nouveau conseiller de Boris Johnson à Downing Street, Dominic Cummings, il a proposé, ou il a dit que la première chose que la Grande-Bretagne ferait après un Brexit dur, ce serait d'enlever les protections sous la loi de travail imposée par les Européens.
Donc Monsieur Tavares, le patron de PSA qui menace de retirer une usine de sa firme au Royaume-Uni, ben il n'a pas raison, Catherine Nailleux, il y a des opportunités,
en fait,
y compris pour PSA.
Ce qu'il dit, c'est que si c'est plus profitable d'avoir des activités au Royaume-Uni, il retirera son activité. C'est simplement le point de vue d'un entrepreneur. Tout entrepreneur vous dirait ça.
Ça peut être profitable. Qu'est-ce que vous dites à M. Tavares?
Alors après, si on prend le secteur de l'économie de l'automobile, pardon, de façon plus générale, ce qui est intéressant, c'est de voir que les constructeurs ont des discours très différents les uns des autres. Et en particulier, Jaguar Land Rover a dit qu'il allait augmenter ses capacités de production au Royaume-Uni et développer les productions d'automobiles électriques. Il faut bien voir que dans le secteur automobile, il y a en ce moment des grands changements qui s'opèrent et que tous les producteurs qui faisaient beaucoup d'automobiles diesel doivent se reconvertir vers des modèles plus électriques. Et donc il y a tout un enjeu stratégique aussi au Royaume-Uni en ce moment sur ces différents producteurs automobiles.
Une chose aussi, Mathélie, tout de même, est-ce que le projet de Boris Johnson finalement, ce n'est pas de créer un énorme paradis fiscal aux portes de l'Europe?
Alors un énorme paradis fiscal, mais pas que. Au-delà de la fiscalité, vous avez tout un ensemble de normes, les conditions de travail, sur l'environnement, qui empêchent finalement les entrepreneurs de faire des affaires comme ils le souhaiteraient. Pour compléter ce qu'on vient de dire, je crois qu'il faut bien voir que chaque cas et chaque entreprise est différente. Vous avez des entreprises qui vont être pénalisées par la nouvelle politique économique et par la situation parce qu'elles sont très intégrées avec des sous-traitants et une chaîne de valeur en Europe et qui vont avoir intérêt à se retirer. Vous en avez d'autres, au contraire, qui auront tout intérêt à accroître leurs investissements.
John Henley, s'il y a des élections, Boris Johnson les gagne actuellement?
Je pense qu'il a plus de chances de gagner des élections que de gagner un deuxième référendum. Ça, c'est clair. Surtout s'il est en position de se présenter comme sauveteur du Brexit et seul représentant de la volonté du peuple.
Donc il gagne la question. Une fois qu'il a gagné les élections, est-ce qu'il a en M. Trump, qui gagnera peut-être ses élections, un allié, un partenaire fiable pour fabriquer autre chose au port de l'Union européenne?
Écoutez, il compte beaucoup dessus. Je ne sais pas s'il a raison, parce que l'économie américaine, évidemment, pèse beaucoup, beaucoup plus lourde que celle de la Grande-Bretagne. Et si Boris Johnson vise un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce serait certainement, et d'ailleurs l'ambassadeur américain à Londres a été très, très clair sur ce point-là, ce serait sûrement sur les termes des États-Unis. Ce qui veut dire bœuf aux hormones dans les supermarchés britanniques, poulet lavé au chlore, tout cela.
Allez, ça doit... ces sujets de la société britannique est très divisé. Ça doit... Aucune probabilité très forte que ce soit Johnson qui emporte des élections.
Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va reparler de ce sujet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.